CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Keylus par Johan.
Bonjour, bonjour à tous, merci d'être fidèles au MAG du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, Christian Choqueux évoque la signature des conventions filles pour le territoire, énergie positive pour une croissance verte. Filles, ça veut dire que la convention mère est déjà signée, bien sûr. Et nous aurons la présentation du pôle Pleine Nature par Émilie Plassard et Pierre Durand sur le territoire de la communauté de communes Quercy-Rouergue et Gorges de l'Aveyron. Le pays Midi-Quercy, territoire à énergie positive pour une croissance verte. Quand je vous disais qu'on en reparlerait, ben parce que morceau par morceau, tranche par tranche, convention par convention, on est en train de s'y mettre comme il faut. Christian Choqueux, spécialiste en la matière, bon, adjoint au maire de Bruniquel, spécialiste développement durable, il hausse les épaules. Bonjour Christian.
Bonjour, bonjour Johan.
Des conventions filles, vous me dites.
Oui, derrière la convention principale qui a été nommée convention mère, eh bien la déclinaison sur au niveau des communes s'appelle des conventions filles. Donc on en a 29 au total sur le territoire, ce qui est une chance.
29.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait ce qui m'a semblé très important, c'est que les communes ont répondu de manière très positive au projet global TEPCV hein. Que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, que ce soit pour le remplacement de vieux véhicules par des véhicules électriques, que ce soit pour la rénovation du bâti public, je pense aux écoles, aux mairies, aux bâtiments publics de manière générale, que ce soit pour la rénovation du bâti privé également, avec au niveau du pays Midi-Quercy depuis environ un mois, la naissance et la mise en œuvre d'une plateforme de rénovation à la disposition des habitants du territoire. Et puis également sur l'éclairage public. Donc il y a eu 29 dossiers qui ont été retenus et cofinancés par le projet TEPCV à hauteur en général de moins 70%.
À 15 jours des illuminations de Noël, c'est pas un peu gonflé de dire ça. Ou peut-être justement qu'avec les LED, en réalité, on illumine plus et on consomme beaucoup moins.
Alors ça, c'est vrai. En fait, donc sur les ampoules classiques, il était considéré que 5% de l'énergie servait à la lumière et 95% en fait au chauffage. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait pas mettre la main sur une ampoule parce qu'on se brûlait. En gros, avec les nouvelles ampoules à consommation réduite en fait d'énergie, on n'inverse pas vraiment le rapport, mais on le diminue de manière sensible. En gros, 20% de l'énergie va à l'éclairage et 80% encore à la chaleur, dégagement de la chaleur. Avec les LED, il y a une véritable inversion, c'est-à-dire qu'il y a que 5% de l'énergie qui fout le camp en énergie en chaleur, quoi, en fait, hein, en énergie thermique. Le reste, c'est vraiment de la lumière. C'est-à-dire qu'avec 5% de la consommation originelle, on a la même quantité de lumière, quoi.
Bon, mais dites-moi, 29 conventions filles, c'est pas parce que le territoire est devenu territoire énergie positive pour une croissance verte, c'est le contraire. C'est bien parce qu'il y a des gens sur le territoire qui avaient des projets de travaux, d'amélioration, etc., que le territoire a été reconnu comme postulant et bon candidat pour ça.
Alors, ça aurait pu être ça, mais à l'origine, en fait, c'était pas tout à fait ça. Bien sûr qu'il y avait des projets. Bien sûr que, en fait, il y a une volonté de la part des élus de faire avancer leur territoire, d'améliorer le patrimoine, en fait, il y avait le problème de financement derrière. Donc, il y avait des projets qui restaient sous le coude, parce qu'en particulier, les bâtiments publics sont très mal financés par les subventions. Donc, c'est de l'argent du contribuable et on a quand même, faut le reconnaître, les élus du territoire sont quand même des gens responsables et donc font très attention à la dépense publique. Le fait qu'il y ait cet abondement, en fait, grâce à TEPCV, c'est une enveloppe de 500 000 euros qu'on a reçue quand même, a permis de débloquer ces projets-là. Mais la plupart ont été faits dans l'urgence. Hein, faut reconnaître. D'ailleurs, tout s'est fait dans l'urgence. Il a fallu que les techniciens du pays Midi-Quercy, je pense à Julien Burlinger, mais pas que. Je pense aussi à quelques élus qui sont impliqués au niveau du bureau. Donc, il a fallu se bouger très très vite. Pour certains dossiers, on avait 15 jours pour nous retourner, ce qui est une gageure.
Vous dites pas quand même que vous êtes allé voir des élus locaux en leur disant « Maintenant qu'on a de l'argent, ça y est, on peut économiser ».
Alors en fait, c'est un peu que ça. Quand même, il y a eu pas mal de réunions à cette fois en particulier avec les élus pour leur leur dire en fait qu'il y avait cette opportunité qu'ils ont su saisir. Hein, il y a vraiment aucun problème. Et je crois que comme moi, ils attendent la prochaine mouture en fait du projet TEPCV qui devrait nous apporter si on est bien prêt 3 fois plus en fait de subventions d'État. Quoi.
Ah oui.
Oui, 1,5 million d'euros. Ouais. Alors bon, on va tout faire pour l'avoir. Hein. C'est pas gagné encore. Hein. Mais je avec les déplacements que j'ai fait auprès du ministère ou auprès des différentes instances, j'ai vu à quel point le pays d'Immigration était vraiment bien considéré par l'État et au plus haut niveau, au niveau du ministère lui-même.
Alors rappelons en quelques mots pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi ça depuis le début, être un territoire à énergie positive pour une croissance verte, c'est certes faire des économies d'isolation dans les bâtiments, d'éclairage et tout ça, mais ça n'est pas que ça, il y a plein de domaines où on pourrait économiser, comme les déplacements. C'est pas les individus qui peuvent décider qu'il y a des transports en commun, quoi.
Non, mais effectivement, le transport est un vrai problème hein, sur le territoire. Il est lié au fait que nous sommes un territoire rural, ça échappe à personne, et que par définition, il y a une déconcentration de l'habitat. Si on n'est pas un centre-ville comme Toulouse où on peut se déplacer vers des services à la limite à pied, en vélo ou avec des transports en commun, parce que ce sont des services de proximité. Là, ne serait-ce que faire ses courses quelque part, je sais pas, aller chez le médecin ou aller chercher les médicaments, il faut prendre sa voiture la plupart du temps parce que c'est comme ça. Donc la consommation moyenne d'énergie par habitant sur le territoire, c'est 2 600 € par an et par personne, ce qui est quand même beaucoup. Et ça, c'est lié en gros à l'obligation de bouger. Hein, d'aller chercher les services là où ils sont. C'est moins vrai dans les grandes villes. En fait, la moyenne nationale, c'est 2 000 €. Alors on intègre dedans l'électricité, le chauffage, les combustibles pour faire la cuisine, enfin tous les besoins énergétiques. Donc là, cette différence, elle est liée justement à cette nécessité de transport. Donc on travaille beaucoup à l'heure actuelle pour essayer d'améliorer justement les déplacements, en particulier les déplacements domicile-travail, vers du déplacement collectif. Quand ce sera possible. Et c'est une gageure, là aussi. Hein.
Et en même temps, il y a un accompagnement des services, par exemple les maisons des services publics des communautés de communes, pour dématérialiser les démarches.
Alors, c'est vrai, elle a été inaugurée il y a un mois à Nègrepelisse, en particulier, la maison de services au public. C'est une volonté de la part des élus de remplacer ce que l'État ne fait plus dans certains coins, il faut le dire très clairement. Donc il y a un relais qui est pris, bon, aussi avec l'aide de services de l'État. Hein, faut pas l'oublier.
Oui, il y a la possibilité de payer ses contraventions en ligne.
Hein, ça, par exemple, ça c'est par exemple et ses impôts aussi. Hein. Donc, voilà, mais donc il y a une délocalisation en fait des services centralisés vers nos communautés de communes. Donc c'est quand même un bien. Alors effectivement, il n'y a pas que le transport. Hein, c'est quand même 5 000 déplacements de domicile-travail hors le territoire tous les jours. C'est en gros 9 millions d'euros par an de carburant qui sont dépensés simplement pour aller travailler, ce qui n'est pas rien. Quoi.
Si on y rajoute qu'au passage on fait des courses dans les magasins qui sont sur le trajet, c'est pas forcément la vie commerçante locale qu'on soutient.
Alors c'est pour ça que dans le projet TEPCV, il y a tout un travail sur les circuits courts et la relocalisation de la production et de la consommation. C'est important. Là aussi c'est un travail de longue haleine. Il y a des paradigmes, en fait c'est le mot moderne hein, pour dire qu'il y a des comportements à faire évoluer. Mais ça marche bien et c'est plein d'espoir. Mais il y a encore à travailler, hein, c'est évident.
Oui, ça c'est l'opération produit un pays midi-quercy qui permet d'avoir quasiment une étiquette qui permet de reconnaître sur un cajou que oui, c'est un produit fabriqué pas loin.
Oui, c'est un... Alors si ça n'emporte pas le nom, c'est pourtant un véritable label. C'est un double label en fait, de l'empreinte CO2, empreinte carbone, parce que produit localement, vendu localement, donc peu de transport, mais c'est aussi un symbole de qualité. parce que on peut dire merci vraiment aux producteurs locaux pour leur investissement dans la volonté de faire des productions saines, de bonne qualité. On avait une réunion avec l'INRA il y a moins d'un mois où les producteurs agriculteurs éleveurs locaux ont pris eux-mêmes la décision de porter d'ici 2025, en fait, à des horizons quand même très très proches, la production bio à 25%.
Ah.
On avait posé 33, faut être raisonnable, c'est déjà un sacré pas de passer de 4-5% à 25%, avec la volonté bien ferme de la part des producteurs eux-mêmes d'y aller.
Ça veut dire que les survivants pourront manger et rester en bonne santé.
Alors, oui, j'espère faire partie de cela, très, très honnêtement.
La prochaine étape pour décrocher le million et demi
Eh bien, c'est d'avoir des projets qui soient fédérateurs, qui soient au service de la population. Je rappelle, à chaque fois que nous sommes un territoire qui a pour projet d'être un territoire de développement durable, c'est-à-dire que l'on doit mettre l'homme, l'être humain, en tous les cas, au centre de nos préoccupations. Et c'est ce que l'on fait. Et moins consommer d'énergie, c'est avant tout un changement de comportement, donc un changement de modèle de société. J'ai un souhait que l'on va tenter de concrétiser, là aussi c'est du long terme, c'est que les habitants du territoire s'approprient le modèle énergétique du territoire, qu'ils en soient les propriétaires, et que en fait ils gèrent eux-mêmes leurs besoins et leur production en énergie.
Ambitieux.
C'est ambitieux, c'est réalisable parce que c'est fait ailleurs. Donc c'est pas nouveau. J'étais avant-hier à Paris à la COP21, donc invité par Madame la Ministre pour discuter justement de ces projets, en fait, d'évolution, de transition sociétale. Donc on avait des Allemands en particulier qui ont pris une certaine avance sur nous, en tous les cas sur les consommations d'électricité, pas tellement sur les consommations de carburant, parce que ils consomment beaucoup plus que nous pour les déplacements. Ils les intègrent pas d'ailleurs dans leurs calculs, ce qui est quand même facile de fermer les yeux. Nous, on le fait. Et le modèle coopératif, en fait, est le modèle qui semble le mieux adapté. Alors peut-être un modèle de coopérative qui n'existe pas encore. Il est inventé. On a lancé la première grande session, ça sera au début de l'année prochaine, un atelier de prospective territoriale qui intègre en même temps le Conseil de développement territorial, c'est-à-dire des personnalités non élues du territoire qui ont envie de réfléchir à côté des élus et à côté des techniciens territoriaux qui portent le droit avec eux, en fait, ou les limites du droit avec eux. Les élus étant chargés après de mettre en œuvre ce que, en fait, la population aurait souhaité et désiré. Ouais.
Rappelons que si on a la chose publique chevillée au corps, on peut postuler à faire partie du conseil de territoire.
Ou alors, si vous le connaissez, donc son animateur principal, qui refuse de se faire appeler président, ce qui est la preuve, en fait, d'un vrai dévouement, qui s'appelle Gérard Tiercelin, et qui est un groupe qui travaille très bien. Ouais.
Le pays, c'est 05 63 24 60 64. Christian Choqueux, je vous remercie.
Merci à vous.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et samedi à 18h.
En matière de développement touristique, le pays n'a pas choisi de venir visiter des grottes sacrées avec des autobus chargés. Non, c'est plutôt un pôle plein de nature. Le pôle plein de nature a des chargés de mission. On a Émilie Plassard qui est chargée de développement du pôle plein de nature et Pierre Durand qui lui aussi est technicien rivière chargé du pôle plein de nature pour la communauté de communes Quercy-Rouergue et Gorge de l'Aveyron. Bien entendu, quand on parle pôle plein de nature, ça pourrait être dans la vallée, sur le plat, mais bon, il vaut mieux que ça soit un peu accidenté pour qu'on grimpe, pour qu'on descende en canoë, qu'on remonte le courant, qu'on descende dans des trous. C'est tout ça, le développement du pôle pleine nature, Émilie.
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une démarche qui permet une destination touristique et sportive reconnue. Cette démarche, c'est à l'initiative donc du groupement d'intérêt public du Massif Central, qui permettra à une quinzaine de pôles au niveau du Massif d'avoir accès pour des porteurs de projets publics et privés à des financements spécifiques pour réaliser des investissements, des équipements, des études nécessaires à la diversification, au développement des activités de pleine nature.
Bon, là, on est clairement gorge de l'Aveyron. Ne nous cachons pas.
Tout à fait.
La Bonnette, ok, c'est pour la pêche, rivière première catégorie, mais pour des activités sportives, c'est plutôt ce que je disais, quoi, des déclinaisons, des falaises.
Tout à fait, ça regroupe vraiment toutes les activités de pleine nature, à la fois escalade, oui, via ferrata, parcours acrobranche, des activités nautiques, canoë-kayak, des activités aériennes, vol libre, deltaplane, voilà, des activités itinérantes douce, comme on peut les appeler, avec l'équestre, randonnée équestre, randonnée pédestre, VTT, cyclotourisme, etc. Ça regroupe vraiment beaucoup d'activités, toute activité de pleine nature. La structuration d'aménagement, d'équipement, la diversification de l'offre de produits, de services pour ces clientèles qui veulent voir cet environnement des gorges de l'Aveyron et s'amuser sur des activités comme ces activités de pleine nature.
Ça se pense, ça?
Tout à fait, ça se pense, et c'est vraiment dans cet objectif d'amener une stratégie pour éviter ces surcharges, justement, sur ces sites. C'est une organisation à mettre en place qui a été pensée sur le pays Midi-Quercy avec les collectivités et les représentants des activités de pleine nature, à mettre en place une stratégie pluriannuelle sur la période 2015-2020, autour d'axes concrets d'intervention, à la fois sur la structuration et l'aménagement d'équipements des activités de pleine nature, sur la diversification de l'offre de produits, de services au tourisme et aussi à la population, l'éducation au sport, santé, vie sociale, l'accueil aussi qui est important, l'information, la communication sur le pôle, et la sensibilisation également à l'environnement qui est importante. Il y a aussi un axe, l'axe transversal lié à la coordination, la mise en réseau de ses partenaires et la pérennisation de ce pôle au niveau des activités.
Pierre Durand, vous connaissez le territoire de la communauté de communes Quercy-Rouergue et Gorges de l'Aveyron, puisque technicien rivière, ça veut dire qu'on connaît les continuités, les crues, les étiages, la végétation, la ripisylve, c'est comme ça qu'on dit?
Tout à fait, c'est exactement le terme technique, ripisylve, qui indique la végétation en bordure des cours d'eau. La communauté de communes, effectivement, dans le cadre de cette politique de diversification et de qualification d'offres, a essayé de faire un petit peu un état des lieux, un constat sur cette rivière. Et ce travail a été fait avec notamment la Fédération de pêche du Tarn-et-Garonne, où le but du jeu était également de développer le tourisme hors vraiment saison été, juillet-août, où effectivement Émilie vient de le présenter, on a beaucoup de monde pendant l'été, mais c'était voilà d'augmenter la période touristique, notamment le printemps, l'automne et l'hiver. La rivière Aveyron, notamment en termes de pêche, possède un potentiel de poissons halieutiques, carnassiers, carpes, ainsi de suite, qui est quand même très important. Donc la communauté de communes a souhaité partir sur cette thématique, sur cet acte de travail pour développer le tourisme lié à la pêche. Dans ce cadre-là, il y a des investissements, des aménagements à faire pour permettre cette activité-là. Donc sur la période effectivement 2015-2020 et notamment en 2016 pour la première année, plusieurs aménagements vont être réalisés, notamment des rampes de mise à l'eau pour bateaux. La pêche a beaucoup évolué ces dernières années, notamment la pêche de la carpe de nuit, la pêche des carnassiers et une pêche en bateau, une pêche en flotte tube, de la pêche de la carpe la nuit également, quand c'est autorisé, c'est pas mal développé. Localement, l'association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Saint-Antonin a très bien rebondi par rapport à ce développement du pôle de pleine nature, et nous avons travaillé, nous allons travailler en 2016 sur l'aménagement de postes de pêche et également de rampes de mise à l'eau. Donc ça, ce sont des activités qui vont pouvoir se développer un petit peu hors saison. On s'adapte à la période où le poisson est le plus mordeur, entre guillemets. Et également, quelque chose de très intéressant, c'est le rafraîchissement, le rajeunissement des points multi-accueil en bordure de la rivière Aveyron, qui permet auprès de cette itinérance douce d'activités liées à la pêche, mais comme Émilie le disait, ça peut être également du VTT, du canoë, mais de proposer à ces touristes de pouvoir bivouaquer avec également des sanitaires, des douches, un branchement électrique, un parking. Ce sont des propositions et des aménagements qui vont être vraiment intéressants.
Est-ce qu'en fait, on ne va pas faire redécouvrir les gorges de l'Aveyron à toute une génération de citadins ?
Oui, tout à fait. Enfin, c'est vraiment à la fois au niveau local pour les populations qui puissent avoir un cadre de vie intéressant et également pour les Toulousains et les Montalbanais qui voudraient venir sur le territoire, découvrir ce territoire et le potentiel qu'il a au niveau des paysages, au niveau de ses aménagements, au niveau de son tourisme, voilà.
Bon, les enjeux, les objectifs de tout ça, évidemment, c'est pas juste d'accumuler en bord de rivière des tas de gens, parce que sinon, même eux, ça leur plairait pas, parce que ce qui les attire, c'est quand même l'aspect sauvage. Et le territoire a aussi des atouts, c'est des kilomètres de sentiers.
Tout à fait. C'est à la fois les objectifs du pôle sont de proposer une offre qualifiée, hein, diversifiée avec justement ces attraits de sentiers et d'itinérance sur les cours d'eau et permettre de séduire un large panel, hein, de clientèle à la fois touristique, sportif et de population de proximité. Proposer des produits séjour adaptés aux différents clients, justement comme Pierre en parlait sur la saison entière. Valoriser aussi le patrimoine environnemental qui est important, les ressources naturelles, et poursuivre donc sur l'image du territoire, hein, attractif et de grande qualité, de qualité de vie. Voilà.
Des randos en bord de rivière, mais alors les GR, ils passent sur les plateaux, et là on a des points de vue magiques.
Tout à fait. Il y a vraiment un potentiel de sentiers sur plateau, dans les gorges, qui sont vraiment très, très intéressantes et très...
Et même un technicien rivière comme Pierre Durand, il sait que quand on est en haut d'un plateau... C'est là qu'on voit bien la ripisylve.
On a une vision.
Tout à fait, effectivement. En prenant de la hauteur, on voit bien cette trame verte et bleue qui conditionne le paysage. Et effectivement, aussi dans le cadre du pôle de pleine nature, on a un axe majeur, effectivement, qui est la vallée de l'Aveyron. Mais il y a quand même trois affluents qui sont également magnifiques, avec vraiment des belles vallées, des falaises aussi.
La Bonnette, la Seille et la Baille.
Et la Baille, tout à fait.
Et en fait, à l'autre bout du territoire, la Lair.
Et dans le cadre du pôle de pleine nature, il a été mis un accent fort également pour permettre aux touristes qui sont vraiment axés sur la vallée de l'Aveyron de remonter sur le plateau, de découvrir également ce plateau. Et pour cela, il est prévu de faire dans les années à venir donc voilà, du parcours d'interprétation, d'éducation liée à l'environnement, notamment sur un affluent de la Bonnette, le Livron, à Notre-Dame-de-Livron, commune de Caylus, également autour du lac de Parisot, pour essayer de faire découvrir aux touristes ou aux gens locaux également, hein, cette nature commune qui est présente, que l'on ne voit plus, mais qui est très riche, qui est diversifiée. Et ça sera de l'interprétation donc de zones humides, de maras, de milieux forestiers, des oiseaux, de la vie faune qui vit dans le lac de Parisot, et également sur le Livron, le cycle de vie très simple de la truite, à travers quelques aménagements qu'on a pu réaliser cette année en 2015, de la diversification d'écoulement, de la création de caches, de frayères, qui a très bien marché. Voilà, donc c'est...
Et en même temps, un jour ou l'autre, on verra le patrimoine bâti remarquable, parce que la concentration des moulins sur une centaine de mètres en descente du Livron, je crois que quelqu'un avait dit que c'était la plus forte concentration d'Europe en si peu d'espace, mais c'est toute la technique des anciens qui ont utilisé la force motrice pour moudre ce qu'il fallait moudre.
Tout à fait.
C'est vraiment de permettre de voir ce patrimoine naturel et ce patrimoine architectural sur le territoire.
Le pôle pleine nature, ça va se développer. Quand est-ce qu'on en aura les prochaines nouvelles ? Il y aura quoi ? Un label, comme il y a les stations vertes de vacances ou...
Alors, ça va se dérouler en fait sur des programmes d'action. Donc déjà, on a pu en parler sur le premier programme d'action de 2016, où plusieurs actions sont mises en place à la fois par la communauté de communes, mais par d'autres communes ou des comités départementaux sportifs et des entreprises prestataires d'activités de pleine nature qui proposent donc des projets et on va pouvoir en discuter par des instances de travail multi-acteurs où on va pouvoir parler de la qualification des sites jusqu'à la création de produits touristiques au niveau de la filière activité de pleine nature.
Tout ça là, c'est pas moi qui le paye tout seul quand même.
Non, tout à fait. L'appel donc s'inscrit dans un programme, l'opération plurirégionale du MNACI central, FEDER, un fonds européen, et sur la convention MASSIF 2015-2020, avec donc des financements de l'État, région et département.
Oui, c'était la prise en compte du fait qu'il y a plein de territoires autour du Massif central qui ont besoin d'un effort supplémentaire pour attirer des populations et pour
tout
les accueillir.
Fait. Tout à fait. Donc en fait, c'est pour le FEDER une enveloppe de 500 000 euros pour 6 ans.
Émilie Plassard, chargée de mission au pôle pleine nature au PETR Midi-Quercy. Pierre Durand, technicien rivière, chargé du pôle pleine nature à la communauté de communes de Quercy-Rouergue et Gorges-Aveyron. Émilie, Pierre, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci à vous.
Le MAG du Pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr, les émissions Le MAG du Pays Midi-Quercy. À la semaine prochaine!